Notre tour d'horizon des élus du territoire continue sur Radio Prévert. Nous sommes en début d'année et en ce mois de février, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur le sénateur Louis-Jean de Nicolaï. Bonjour.
Bonjour, Jocelyn.
Merci d'avoir accepté de venir en studio à Pont-Vallin pour nous dire ce que vous avez pensé du bilan de 2022. Et il sera également question, comme on a l'habitude de le faire avec vous, de nous projeter sur le nouveau cru 2023 qui vient de commencer. Et on va également aborder quelques sujets d'actualité puisque vous avez votre poste de sénateur un regard, on va dire, transversal sur notre société. Et il y a des sujets de fond qui agitent notre société aujourd'hui. On en reparlera. Mais d'abord, c'est vous qui avez la main, Louis-Jean de Nicolaï. Et on peut également vous souhaiter une bonne année. On n'est qu'en février, on peut également le dire.
Merci beaucoup de m'accueillir. Pour des raisons de santé, j'ai pas pu cette année aller à bon nombre de vœux, sauf pour la commune de Maillé où j'avais pu y aller au tout début. Puis des problèmes de santé m'ont empêché. Je suis ravi un peu de pouvoir, grâce à vous, faire un tour d'horizon à la fois de l'année 2022 et puis en même temps de cette année qui démarre de façon un peu compliquée en 2023.
Alors 2022, vous l'avez dit, année compliquée, on sort de la crise du Covid et il y a quelque chose aussi qui arrive comme si c'était une sorte de jeu de bascule, la guerre en Europe, la guerre en Ukraine. Et comment vous, en tant que parlementaire, vous dites, allez, comment on va faire pour sortir de cette spirale qui s'enchaîne ?
Alors d'abord 2022, on sort, comme vous le dites très justement, on sort du Covid qui a quand même bloqué 2 années complètement de l'économie. Il y a tout d'un coup eu un sursaut, un espèce de boom. Un boom économique, une baisse du chômage, une volonté des personnes de se retrouver. On a pu enfin retrouver toutes les fêtes, les vides-greniers, les animations qu'il peut y avoir dans les communes, tous les élus se sont dit il faut faire quelque chose. Le tourisme a très bien marché. Nous avons fait une année assez exceptionnelle au Château du Lu dans tous les cas. On a dépassé maintenant les 40 000 visiteurs. Le fait des jardiniers a très bien marché aussi. Et donc on a senti une volonté de tout redémarrer et comme si c'était avant, même si ça n'est plus comme avant. Et puis là-dessus est arrivée la guerre il y a bientôt un an, la guerre en Ukraine qui évidemment, si nous ne l'avons pas ressenti tout de suite, maintenant on le prend de plein fouet avec les problèmes énergétiques, avec l'augmentation du gaz, de l'électricité, malgré les espèces de barrières qu'a mis le gouvernement pour éviter que les factures soient trop élevées, mais c'est très compliqué à comprendre. Et cette guerre aussi a fait en sorte, bien qu'il y a eu des volontés de transformer l'économie, de la rendre au point de vue énergétique plus autonome. Donc c'était toutes les lois sur les énergies renouvelables que nous avons voté à la fois à l'Assemblée et au Sénat et sur lequel nous sommes mis d'accord. C'est aussi la difficulté de se dire, est-ce que d'avoir une seule énergie qui sera l'électricité n'est pas quelque chose aujourd'hui d'un peu risqué. Avant on avait le fioul, le gaz, l'électricité, différentes énergies. On est en train d'aller vers une seule énergie. Il suffit d'avoir un attentat sur un transformateur électrique ou autre, eh bien ça risque de bloquer tout le monde. Donc il y a des vraies interrogations sur le futur qui se posent aujourd'hui, avec évidemment cette lutte qui est en train de se profiler entre les pays de l'Ouest, les États-Unis, l'Europe et le reste du monde. On voit dans les positions sur l'Ukraine, la Chine qui hésite, l'Afrique qui prend des positions aussi pro-russe, l'Amérique du Sud qui ne veut pas prendre position, l'Inde et autres. Donc on est dans quelque chose assez fragile. J'espère que la diplomatie et l'intelligence des chefs d'État et de gouvernement feront en sorte qu'on trouve une solution acceptable pour tout le monde.
Alors, ce que vous dites là, Louis-Jean de Nicolaï, est fondamental parce que certains disent que les régimes autoritaires sont en train de prendre le pas sur les régimes démocratiques. Est-ce que ça, pour vous, ça pose question ?
Oui, ça pose question parce que bon, on est habitué. Alors, il y a certains régimes qui sont très autoritaires, d'autres qui évoluent. Regardez au Brésil, c'était un régime autoritaire. C'était ric-rac, mais c'était un régime plus démocratique qui a été élu. L'Amérique du Sud. Alors, il y a des mouvements un peu partout, mais il y a surtout de se dire que le monde est en train de changer. Que 1 milliard d'habitants sont au nord du monde et 6 milliards d'habitants sont au sud du monde, et que ces 6 milliards d'habitants, avec les moyens modernes de communication dont nous bénéficions tous aussi, hein, avec les moyens modernes de communication, sont au courant de tout ce qui peut se passer dans le monde, sont au courant de l'économie, et sont au courant de dire il faut que cette richesse aussi soit un peu mieux répartie. On ne peut pas continuer comme on l'a été au 19e et 20e siècle de la même façon. Donc on est dans une espèce de bascule et d'un temps assez difficile sur lequel le bon sens et surtout de pas trop penser, pas se replier sur soi-même est extrêmement important aujourd'hui.
Et aujourd'hui, c'est également des problèmes tenant à l'augmentation des prix. Vous y avez fait allusion compte tenu de la guerre en Ukraine qui a fait flamber les cours. Vous avez parlé des prix de l'énergie. Pour vous qui êtes membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, ça doit vous faire dire que, ok, il y a des difficultés, mais ça doit aussi être le lieu de prendre peut-être un autre virage.
Absolument. C'est aujourd'hui, il y a un virage. Alors, bon, moi, je suis extrêmement attaché au mix énergétique. Je crois que le tout électrique est quand même assez dangereux, comme le tout gaz a été dangereux, le tout pétrole aussi est dangereux, d'autant plus que le gaz et le pétrole polluent un peu plus la planète, donc il faut que chacun fasse des efforts. C'est pour ça que nous avons accepté, nous, au Sénat, de trouver une solution pour l'accélération des économies d'énergie et des nouvelles énergies à travers le soutien au photovoltaïque, le soutien dans certaines conditions aux éoliennes, le soutien auquel moi je suis très attaché sur l'hydroélectricité et notamment le maintien des barrages et la petite hydroélectricité sur nos rivières, et puis aussi, surtout aussi le soutien à l'économie d'énergie, de savoir comment on peut faire en sorte que les bâtiments soient moins énergivores, que les voitures soient moins énergivores aussi, et que je crois que là-dessus il y a tout un travail, une recherche naturelle de l'ensemble de l'économie sur ce plan-là, et dans quelques années, je suis persuadé que les progrès seront considérables. On le voit, la simple annonce de faut faire un peu d'effort, la consommation d'électricité a baissé en France dans les derniers mois de l'année 2022. Ce qui prouve que tout le monde peut trouver des solutions pour faire en sorte que la consommation énergétique baisse sans vraiment compliquer la vie de tout et à chacun. Non, ce qui est plus compliqué, c'est pour nos milieux ruraux, où le travail n'est pas sur place. Je me souviens dans le temps, quand j'étais jeune, au lieu de 85% de la population travaillait sur place, entre Pelletet, Candia, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, ils doivent se déplacer. Et donc, les moyens de transport la mobilité est extrêmement importante. Je crois qu'il va falloir trouver de nouveau, faciliter beaucoup plus le transport. Je pense que la SNCF, avec l'État et l'Europe, doit faire un véritable travail pour mettre en place des facilités pour aller des gares dans les chefs-lieux de départements, qui a un cadencement presque entre Montval, Aubigné-Racan, Maillé, et puis Le Mans, et puis de l'autre côté Tours. Je pense que tout ça est extrêmement important. Je pense aussi que les moyens de communication avec moderne, avec le télétravail qui s'est extrêmement développé aussi et qui facilite la tâche dans beaucoup de cas, font en sorte que on doit pouvoir résoudre des problèmes d'énergie sans massacrer, si je puis dire, la volonté de partir en vacances, d'avoir une voiture qui n'est pas tout à fait encore électrique et qui peut prendre un certain temps parce que c'est trop cher aujourd'hui pour des tas de gens. Mais je crois que pour notre milieu rural, c'est extrêmement difficile et il faut y aller doucement.
Eh oui, parce que on a tous entendu dans l'actualité que Grenoble, hein, qui était, allez, on va dire, dans l'avant-garde par rapport à tout ce qui est respect de l'environnement, puisqu'ils ont une majorité écolo aux manettes de la commune, ils ont dit qu'ils allaient décaler l'application de la zone à faible émission,
oui,
hein, pour quelques années.
Oui, pour quelques années, parce qu'ils sont aperçus que c'était quasiment impossible d'interdire pour le centre-ville. Et nous, c'est pareil. Enfin, nous, on est les milieux ruraux. S'ils n'ont pas le droit, parce que s'il leur faut une voiture électrique qui coûte entre 42 000 et 50 000 euros aujourd'hui, qu'ils ne sont pas incapables de payer avec les revenus qu'ils ont, s'ils ne peuvent pas aller dans les centres-villes à partir de telle date, enfin, là aussi, c'est une fracture territoriale qui est en train de se mettre de plus en plus en place, parce que dans les centres-villes, ils ont les trams. Donc, ou alors, il faut avoir des parkings mis à l'extérieur avec une organisation. Donc, c'est des investissements extrêmement chers, et je ne crois pas qu'on soit à 5 ans près.
Et vous avez bien fait de commencer par les transports en commun, parce qu'aujourd'hui, la trajectoire, c'est ça, c'est d'amplifier ce genre d'infrastructure, parce que si en milieu rural, il y a cette offre-là que vous pointez à juste titre, hein, d'ailleurs pour le milieu urbain, s'il y avait cette offre alternative, on ne serait pas obligé d'avoir deux voitures, trois voitures dans chaque foyer.
Je suis persuadé que pour les générations... Alors nous sommes habitués à la voiture.
Hein. Oui.
On est habitués à la voiture, on y est bien dedans, elles sont confortables aujourd'hui. Je crois que pour les générations futures, moi je vois, j'ai deux jeunes ménages qui n'ont pas de voiture, qui louent, qui habitent bon, des grandes villes, mais qui louent une voiture lorsqu'ils doivent partir en week-end, et puis qui prennent le tram dans leur ville. Donc je crois qu'il y a une évolution sur cela, puis le télétravail aussi a vraiment fait changer les choses. Mais nous, dans nos milieux ruraux, si on n'organise pas, si les moyens de transport propres, entre guillemets, ne sont pas mieux organisés, et plus sûr, je crois qu'il va falloir retarder de pas mal d'années la suppression de la voiture. En tous les cas, quand je vois le nombre de voitures qui se promènent encore sur les routes, c'est pas pour demain.
C'est pas pour demain, ça c'est sûr. Et puis, faut pas oublier qu'on est en Sarthe, hein, le département des 24 heures du Mans, et les gens ont tendance à oublier, hein, ce n'est pas juste l'aspect, allez, course de haut niveau, mais c'est aussi le passage de certaines avancées technologiques hein, vers le grand public également.
Absolument, absolument. Mais je vois là aussi, les voitures, quand il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, étaient à 10 litres au 100. Elles sont aujourd'hui à 5 ou 6 litres. Donc, il y a une diminution quand même, là aussi, à la fois de la consommation et de la pollution aussi, avec les voitures hybrides d'un côté, et puis les pots catalyseurs différents aussi de l'autre. Moi, je ne suis pas très un spécialiste de l'automobile, mais je crois qu'il y a eu des efforts considérables de fait. Donc, par contre, l'interactivité mondiale, si je puis dire, a été telle que la croissance du déplacement a été plus importante. Ce que je disais tout à l'heure, où 85% de la population du lieu de travail sur place, ça n'est que 50% aujourd'hui ou 45% aujourd'hui. Donc le besoin, la mondialisation a fait que les choses ont complètement changé au point de vue au point de vue utilisation des moyens de transport.
Alors pour vous qui êtes spécialiste du monde économique à travers vos précédents mandats, votre dada, hein, si j'ose dire, c'était justement l'économie hein, à la région, au département. Et quand aujourd'hui on parle de sortie de la crise Covid et il y a une embellie qui arrive et puis la guerre, le résultat, qu'est-ce que les chefs d'entreprise, qu'est-ce que les différentes filières vous font remonter?
Mais les chefs d'entreprise étaient assez contents de l'année 2022, même très contents, mais aussi quelquefois 2021 aussi, qui a été des années de reprise économique, on le sentait. Leur grande inquiétude, c'est la formation des collaborateurs et de trouver des collaborateurs pour ces entreprises, avec une évolution aussi, et j'en parlais avec des personnes des agences d'intérim qui me disaient qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent l'intérim, travailler 8 mois, et puis avoir 2 mois, ou travailler 9 mois, ou 10 mois, et avoir d'avoir deux mois de réflexion, de faire autre chose, ou de vacances, et de changer de travail aussi. Avant, vous rentriez au Crédit Agricole, enfin, je ne veux pas faire... Ou Crédit Mutuel pour éviter, ou le CIC pour éviter les bagarres. Pour éviter les bagarres, vous rentriez dans une banque ou une compagnie d'assurance, comme les Mutuelles du Mans, et vous y faisiez toute votre carrière. Aujourd'hui, il y a cette volonté de mobilité aussi dans le travail qui modifie les choses et qui, pour les chefs d'entreprise, peut-être aussi compliqué. Et en même temps, il faut le reconnaître qu'il y a des grands groupes qui ont recentré sur notamment sur le Sud-Sarthe, hein, des activités, et il y a une reprise sur la Flèche, sur Montval, même sur notre comité de communes et autres, sur la Charte, sur la Loire, avec des entreprises qui s'installent ou qui vont s'installer et qui vont faire travailler des collaborateurs. Voilà, il y a eu ce grand succès avec Mankind sur Bessé-sur-Bray à la suite de la fermeture d'Ajo Wiggins. C'est pour donner tout ça, pour dire qu'il y a de nouveau un retour avec une volonté de faire en sorte qu'en France on peut produire intelligemment grâce aux nouvelles technologies, grâce à la formation des personnes, et que peut-être que la guerre en Ukraine, le prix des transports fera que c'est peut-être plus intéressant de revenir dans notre pays plutôt que de faire que de la mondialisation et d'aller chercher surtout le coût le plus bas. Je crois qu'il faut penser à ce que le coût le plus bas, c'est toujours d'autres personnes qui s'appauvrissent avec cela. Donc c'est là aussi, c'est des réflexions d'avenir de bon sens.
Louis-Jean-Denis Colley, sénateur de la Sarthe, est avec nous, invité de Radio Prévert. Après la mobilité, après la hausse des prix de l'énergie, on évoque l'économie, hein, les entreprises. Et hier, il y a une info qui est tombée sur les défaillances des entreprises. Il y a une alerte, et ça porte généralement sur la région des Pays de la Loire, où la Vendée et la Sarthe ont des chiffres qui augmentent en matière de défaillance des entreprises. Et la raison évoquée, c'est bien sûr ce contexte-là dont vous parlez, et qui fait dire que il va falloir peut-être avoir une attention particulière à ces personnes qui créent de la valeur pour nous. C'est important d'y veiller.
Oui, c'est très important. Alors, c'est vrai que là, les entreprises ont des difficultés. Elles ont des difficultés d'approvisionnement. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas tellement, quelquefois c'est pas tellement les marchés, mais c'est la difficulté de s'approvisionner, et puis les coûts aussi d'approvisionnement avec les marchés passés, où les gens réfléchissent à deux fois avant de se lancer dans des investissements. Je parlais avec quelques maires que je voyais sur les lotissements. Il disait que dans les années 2021 et 2022, alors c'est vrai que les taux d'intérêt étaient très bas, les lotissements partaient à toute vitesse, étaient construits, et là, avec l'augmentation des taux d'intérêt, d'abord les banques deviennent plus frileuses, hein, pour que les personnes montrent qu'il y a une garantie de financement. Donc tout ceci est un tout petit peu inquiétant pour... mais je crois que j'espère que c'est conjoncturel, et que les solutions vont être trouvées pour rationaliser cette flambée des coûts qui est due essentiellement aux problèmes énergétiques, et puis aussi, je l'espère aussi, par l'amélioration des techniques, mais une amélioration du revenu des salariés.
Alors, quand vous évoquez les échanges que vous avez avec les élus, qu'est-ce qui vous font remonter en termes de préoccupations, d'urgence maintenant ?
En ce moment, ce sont les écoles. En ce moment, ce sont les écoles. Les élus, beaucoup de communes sont très inquiètes de la fermeture de classes, que je peux comprendre. Là aussi, je crois que ça n'est plus une question de comptabilité. C'est une question, est-ce qu'on veut, oui ou non, faire en sorte que la ruralité et ses chances de devenir. Si on voit que des classes ferment régulièrement, même, bon, c'est vrai qu'il y a des baisses d'élèves, tout ça est à réfléchir aussi, mais si on voit que les classes ferment, comment voulez-vous que des entreprises viennent s'installer sur nos territoires, sachant qu'il n'y a plus de jeunesse, et que donc il vaut mieux aller dans les lieux où on voit que la croissance démographique est encore plus importante. Je crois que là-dessus, avec Jean-Pierre Vogel, on va rencontrer très prochainement le DAZN, le directeur académique, pour lui parler de cela, hein, pour lui parler de l'inquiétude que nous avons et qui va se remonter au niveau du gouvernement, pour l'inquiétude que nous avons de voir en sorte que la baisse des classes, donc la baisse de la formation qui s'entraîne par la baisse des élèves dans les collèges, puis après dans les lycées, et donc la diminution probablement des matières qui seront enseignées à terme, et feront qu'on craint que d'entreprises ne viennent pas s'installer ou quittent le territoire parce que c'est trop compliqué. Donc pour moi, c'est une inquiétude prioritaire pour ce moment-là. Le deuxième point, évidemment, c'est de trouver le plus rapidement possible avec l'ensemble des pays du monde une rationalisation énergétique, hein, pour que on arrive à faire en sorte eh bien, que les coûts des matières premières puissent diminuer, parce que le revenu des habitants n'augmente pas au même rythme que le coût des matières premières, et que par conséquent, naturellement, il y aura des restrictions et il y aura des diminutions d'activité. Donc j'espère que ça n'est que conjoncturel. J'espère que, comme les chefs d'entreprise sont des gens dynamiques, ils vont probablement s'adapter. Malheureusement, il y en a qui ne pourront pas rester sur le terrain. J'espère que pour eux aussi, ils trouveront d'autres solutions pour se relancer.
Donc, si je comprends bien, ce que vous craignez, c'est que le milieu rural soit moins attractif, puisque tout est lié, c'est un cycle. Les gens, ils vont se dire, déjà, il y a moins d'entreprises qui auront envie de s'y installer, et en termes d'infrastructures, vous évoquiez l'école, je ne sais pas si je vais pouvoir y scolariser mes enfants, donc c'est un cercle.
Pour moi, c'est un cercle vicieux, oui, si je puis dire. Et donc, il y a un vrai travail. On a rencontré la ministre des collectivités territoriale, on la voit très prochainement avec, bon, il y a ce fonds vert qui est lancé, mais ce fonds vert, la subvention ne suffit pas, si je puis dire. La subvention ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est prendre en main les territoires et définir qu'est-ce qui, sur des territoires peut faire en sorte, eh bien, qu'il y ait un basculement vers un avenir plus prometteur. Donc les élus en sont parfaitement conscients, les élus font les efforts nécessaires pour faire en sorte que leur ville soit agréable, que les écoles soient propres, que les possibilités de stationnement et autres, que les commerces s'y installent et tout ça. Il y a un gros travail, mais ce travail avec les ressources, il ne faut pas l'oublier quand même, la suppression de la taxe d'habitation, même si elle a servi aux habitants, et même s'il est en partie maintenant compensée pour les communes, la suppression de la taxe d'habitation, là aussi, n'encourage pas les communes à investir plus. Donc je crois que là-dessus, il y a une vraie prise de conscience des territoires. Je sais que les territoires et les communautés de communes notamment, ils font extrêmement attention. Il y a une vraie prise de conscience, il faut que l'État les accompagne. J'espère que le fonds vert sera vraiment dédié à faire en sorte eh bien, que la ruralité puisse bénéficier, puisse mettre en place les solutions indispensables à la garantie de son développement et à la pérennité, aussi la pérennité de son territoire et l'accueil de populations.
Alors pour les auditeurs, ce fonds vert, allez, c'est un fonds qui a été décidé par l'État.
Et qui... Oui, c'est un fonds qui a été décidé par l'État, qui est de 2 milliards d'euros, qui est distribué, j'espère qu'il n'est pas distribuer n'importe comment, enfin, je pense pas que ça soit ça, mais que ça soit vraiment sur des solutions pour la ruralité qui sont indispensables à son développement, et non pas se dire, ben voilà, on va vous donner 30 000 euros parce que pour une place, des choses comme ça. Je crois qu'il y a la DETR qui a les efforts et que dont les communes bénéficient avec la DSIL. Je crois que le fonds vert, c'est vraiment, à mes yeux, et c'est ce que je plaiderais devant la ministre qu'on voit très prochainement à nouveau, je crois que le fonds vert doit vraiment servir à la fois aux problèmes énergétiques et autres, dans la transition énergétique et l'amélioration de la diminution de la consommation, et en même temps aux stratégies de maintien ou de développement des territoires ruraux.
Et oui, d'autant plus qu'on l'évoquait avec vous hors antenne. Il y a une question qui est là actuellement. Vous avez, du côté du Sénat également, fait des propositions au gouvernement. Les députés sont également en train de travailler là-dessus. Je parle de l'artificialisation des sols. C'est un sujet important parce que certains élus, la majorité du milieu rural disent, mais nous, on bride notre développement, on nous interdit d'avoir des initiatives. Et vous, au Sénat, vous dites, OK, il va falloir regarder cette question-là de façon, on va dire, sérieuse, patiente, et puis faire des propositions qui portent.
Oui, tout à fait. Je crois que le ZAN, puisqu'on l'appelle le ZAN, le zéro artificialisation nette, le ZAN est quelque chose d'extrêmement important pour l'avenir, et il doit pas être réglementé, c'est-à-dire uniformisé sur tout l'ensemble du territoire national. Il y a des secteurs où il y a des, par exemple, des échangeurs d'autoroutes qui sont en milieu rural, et notamment je pense à Montabon, puisque c'est plus proche de chez moi. Je pense notamment à Montabon. Montabon est en train de mettre en place une zone d'activité de 18 hectares, je crois, ou quelque chose comme ça. Il ne serait pas normal que cette zone d'activité, par exemple, soit comprise dans le ZAN et fasse en sorte que ce qui aurait été décidé par le schéma régional d'aménagement du territoire, les fameuses stradettes, là, qui a de dire, voilà, il y a tant d'hectares disponibles pour les constructions sur la vallée du Loir, notamment, pour prendre un exemple, on ne puisse pas sortir ces zones d'activité qui sont indispensables à la survie économique. Après qu'on fasse des efforts sur la restructuration des friches industrielles, par exemple, ce que Mme Latouche fait au LUD avec Candia, en mélangeant en même temps, il y a la gendarmerie qui s'y construit, et puis il y aura probablement aussi des maisons qui pourront s'y mettre, etc., et d'autres activités, et qu'on redonne un sens urbain à ces friches industrielles, et puis qu'on essaie aussi, là où il y a des délaissés, de voir comment on peut là aussi permettre la construction, que tout le monde fasse des efforts de rationalisation sur l'extension des lotissements qui coûtent cher quand même, en assainissement, en eau, en voirie, etc. Je pense que tout le monde est prêt à cela. Et les faire. Il y a aussi, est-ce que la possibilité dans certains coins de mettre un étage de plus, et dans certaines villes moyennes, de voir si on peut pas mettre un étage de plus pour que bien ça soit des appartements plutôt que des maisons. Donc je crois qu'il y a toute une réflexion que le Sénat veut avoir de bon sens, en disant en tous les cas il faut garantir aux petites communes minimum 1 ou 2 hectares de possibilité de construction. Ça nous paraît indispensable, mais surtout, comme toujours, il faut que les choses soient mûrement réfléchies et surtout puissent être évolutives. Il n'y a rien de pire qu'une loi qui est bloquée par des arrêtés de procédures publiques et qui fait qu'au fond, il y a quelquefois des cas particuliers qui sont vitaux pour un territoire et que parce qu'il y a des arrêtés, ça prend un temps fou à modifier et à donner des autorisations. Mais je pense que le bon sens de l'administration préfectorale, en tous les cas dans la Sarthe, fait que je ne suis pas inquiet là-dessus.
Pas d'inquiétude, mais il y a un sujet, puisque je suis en train de consulter les propositions de loi ou de résolution dont Monsieur Louis-Jean de Nicolaï est co-signataire sur la session 2022-2023, puisqu'on évoquait l'école, Louis-Jean de Nicolaï, je vois que il y a une proposition de loi, une proposition de résolution en application de l'article 34.1 de la Constitution appelant à faire de la lutte contre les violences pornographiques une priorité des politiques publiques. Et ça dans le contexte où on déplore presque chaque jour, je ne me rappelle plus du chiffre, et là c'est un peu, allez, brut de le dire comme ça, oui on parle de chiffres, puisque chaque jour, ou presque, il y a des violences qui sont faites aux femmes en France, et on appelle toute la société à faire bloc, à faire corps. Au niveau de la communauté de communes Sud-Sarthe, il y a eu une réunion de sensibilisation des agents, des élus, qui a été organisée au LUD. Il y avait la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité qui était présente. Il y avait également Anne Beauchef, conseillère régionale, qui était présente pour sensibiliser à ces choses. Et je crois que cette proposition de résolution, ça, c'est un peu dans le même esprit.
Oui, c'est tout à fait dans le même esprit. C'est quand même la mondialisation numérique, en fait. La numérisation et l'information et la possibilité par les moyens de smartphones et autres de prendre la jeunesse si je puis dire en otage à travers ces outils fait que on ne peut pas continuer à laisser la liberté la plus totale. Alors il y a le rôle des parents, bien évidemment, à éviter que à 8 ans, 9 ans, 10 ans les enfants aient leur propre smartphone et puis le gardent dans leur chambre et le regardent, etc., et autres, et donc je crois que c'était extrêmement important que le Parlement se saisisse de ce sujet, essaie de réfléchir avec les personnes les plus sensibles, les plus mieux informées là-dessus, essaie de réfléchir à comment on peut lutter contre contre la cyber-pornographie, en fait, parce que c'est ça essentiellement, pour les jeunes, c'est ça essentiellement le problème. Moi, je ne suis pas un adepte de toutes ces TikTok et autres, Instagram un peu plus, parce que voilà, parce que ça fait partie des moyens de communication que nous avons, nous aussi, les élus. Mais je pense qu'il y a probablement il y a une facilité d'arriver dans des sites qui doit être interdite. Donc là, je crois qu'il y a un effort considérable à faire au point de vue législatif et réglementaire pour faire en sorte qu'on protège la vie des mineurs. On peut pas continuer comme ça, laisser tout en liberté sur notre territoire.
Vous avez raison de le dire, puisque il y a un travail qui va être fait par une autorité indépendante qui s'occupe de ces sujets-là et qui va lancer une campagne de communication où les grandes lignes, je partageais avec vous, c'est de dire, ok, bah, ayons un regard rétrospectif sur notre vie, nos vies familiales, etc., où on a un album de famille et on se rappelle tous que, voilà, à tel âge, on a fait ceci, on a fait cela, on a accompagné nos frères, nos sœurs, nos enfants. Il y a des jalons qui sont plantés, posés là, et ils se disent, mais pour le numérique, vous faites bien le dire, il n'y a rien. Il n'y a pas d'accompagnement, alors que bah, on a appris à faire du vélo avec quelqu'un de sa famille. On a appris à conduire en famille. Et là, pour le numérique, qui ouvre des portes sur le monde. Et dans ce monde-là, on sait qu'il n'y a pas que des gentils, bah, qu'il serait inconcevable qu'on laisse les enfants, les jeunes, à portée de loup, si vous me permettez.
Oui, non, tout à fait. Je crois que c'est important d'abord de les accompagner, de leur faire comprendre les choses, et puis surtout de bloquer les informations. Les informations. Enfin, moi, je suis quand même sidéré des jeux vidéo. Je suis pas très bon là-dedans, mais
moi non plus.
Mais je suis sidéré des jeux vidéo sur la violence. Enfin, c'est impressionnant. Après, on s'étonne qu'il y ait des assassinats, qu'on le tue, mais ça n'arrête pas un jeu vidéo, des jeux de guerre où ils se massacrent, enfin ils se tirent et tout. Et comme en même temps, on voit une évolution incroyable de la technologie. Enfin, moi, j'ai été voir l'autre jour le dernier Top Gun, là.
Vous avez pu le voir, finalement.
Oui, j'ai pu le voir, finalement. Et quand on voit l'évolution des missiles antimissiles et ce qui se passe entre les avions, les missiles qui arrivent, les avions qui empêchent les missiles de les atteindre, enfin, on se dit qu'il y a un développement, et la guerre en Ukraine, malheureusement, est en train, à mon avis, va développer encore plus les armes, à la fois de protection et puis d'attaque aussi. Donc c'était toujours inquiétant, les guerres, pour ça, parce que ça fait faire des efforts technologiques épouvantables, et que pour les jeunes, il y a ce où on prend l'habitude de tuer quelqu'un qui est factice en face de vous, et puis une fois qu'il est vous êtes tellement pris par ce côté factice que si vous pouvez un jour vous trouver en face de personnes humaines et vous avez le même geste, donc je crois qu'il y a un travail mais considérable à la fois d'éducation d'abord des parents, ensuite à l'école aussi, et puis en même temps sur les jeux vidéo et l'interaction de interne entre la famille et puis les téléphones portables et ce qui se passe sur les téléphones portables. Je crois que dans le temps on interdit à moins de 18 ans ou des choses comme ça, on regardait pas, ou la télévision se coupait, enfin des choses comme ça. Je crois qu'il faut devenir mieux organisé et plus protecteur de la civilisation humaine.
Protection des enfants, des jeunes, vis-à-vis de la pornographie à laquelle ils sont exposés dans le monde numérique, justement. Le numérique qui est aussi un enjeu important pour les territoires ruraux. Il y a le Conseil économique, social et environnemental régional qui a fait une étude qui disait que 15% de la population est, comment dire, démunie de connaissances, de compétences en matière de numérique, alors qu'aujourd'hui, l'horizon, c'est ça, de gré ou de force, on est tous amenés à s'y intéresser, puisqu'il y a la dématérialisation, il y a certaines choses qu'on ne fait plus que dans ce contexte-là. Comment faire, Louis-Jean de Nicolaï, sénateur de la Sarthe, pour que ces 15% de personnes ne soient pas reléguées en deuxième, en troisième, en quatrième zone ?
Oui, et ces 15% de personnes soit souvent dans le milieu rural ou dans les banlieues.
C'est ça.
Donc c'est vraiment dans les lieux de difficulté sur lesquels, et c'est là aussi où je dis il faut plaider pour qu'on réfléchisse à ne pas supprimer des classes, parce que cette information et cette utilisation de l'outil numérique. Bon, le département a fait un effort énorme sur la possibilité d'avoir le numérique maintenant en mettant la fibre optique jusqu'à l'habitant partout à toutes les personnes qui le demandent. L'État a fait un effort avec les comités de communes pour avoir des conciliateurs numériques, pas des conciliateurs mais des assistants numériques, des volontaires numériques pour aider les personnes en difficulté. Nous avons monté des cybercentres, maintenant des coworking et autres, là aussi pour permettre la formation. Je crois que le numérique, c'est comme dans le temps, on n'apprenait pas à taper la machine à l'école. Mmh. Et moi, je le regrette parce que on écrit moins et on tape de plus en plus à la machine. Moi, je tape avec deux doigts, alors qu'il y a des gens qui vont à toute vitesse. Mais on n'a pas appris. Et je crois que là aussi, la formation au numérique dans les écoles est extrêmement importante. Alors, ils le font assez bien avec leur smartphone et autres, mais ils ne savent peut-être pas se servir de l'utilisation du numérique. Et alors, il y a aussi un danger du numérique, c'est le français la langue française qui est en train de se tiktokiser, si je puis dire, avec des cas comme on écrit KOM, enfin voilà. Donc pour ceux qui sont comme moi, qui arrivent à un âge un peu plus avancé même que la retraite, on se dit oui, il y a vraiment un gros effort de base fondamentale. Et l'effort essentiel aujourd'hui doit être fait sur l'éducation. On le voit, on en parlait avec la pornographie, on le voit, la formation des métiers, c'est important, et on le voit aussi dans les métiers modernes, combien cette éducation est importante, et dans la mondialisation aussi. L'anglais aujourd'hui est la langue véhiculaire du monde entier.
Mais le français a son atout aussi, une valeur ajoutée, une partition à jouer dans ce monde-là.
Le français à la culture, le français à les belles lettres, et on le voit souvent dans le monde. Moi, j'ai cette chance d'aller souvent dans le monde entier. Les grands auteurs français sont toujours cités.
Eh oui, et hier sur TMC, il y avait le journaliste Darius Rochemin qui a eu le bonheur d'interviewer pas mal de personnalités mondiales. Il disait qu'il a eu un entretien avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, où au détour de l'entretien, ils ont parlé de Richelieu. Et voilà.
Et puis, l'histoire de France quand même a marqué le monde. Nous, ça a été un peu plus compliqué en 1789 pour certains d'entre nous, mais il y a quand même des moments. Napoléon, enfin quelqu'un de, il y a peut-être Mbappé qui est en train de le dépasser, mais sinon, ça fait partie des. La France, c'est Napoléon. Enfin, c'est la Tour Eiffel, c'est l'Arc de Triomphe. C'est les grands hommes, les Jeanne d'Arc. Enfin, c'est les grands hommes et les femmes de l'histoire de France qui sont connus à travers le monde entier.
Donc il y a une exception culturelle, le mot était consacré, exception culturelle française à préserver, et il y a un cadre aussi pour faire cela, la francophonie qui a une existence aux côtés du Commonwealth pour le monde anglophone aussi, donc il y a des choses à faire, valeur linguistique, valeur culturelle, valeur économique aussi, puisque le monde change, vous l'avez dit, et en termes de changement, Louis-Jean Nicolaï, en termes d'actualité, le projet de réforme des retraites qui va bientôt arriver chez vous au Sénat.
Mais nous l'attendons avec anxiété.
J'allais vous souhaiter bon courage.
Oui, mais bon, ça va être un peu différent, le Sénat. Le Sénat, quand même, l'essentiel des sénateurs sont issus des élus locaux. En fait, ils ont tous été soit maires, soit conseillers généraux, soit conseillers régionaux, soit présidents de comités de communes ou conseillers communautaires. Donc, ils ont vraiment une base de territoire avant tout, et voient la façon dont les territoires peuvent réagir à ça. Bon, sur les retraites, tout le monde sait que pour la retraite par répartition, il faut trouver une solution d'équilibre. On ne peut pas continuer à avoir un déficit si on veut que les retraites ne baissent pas pour ceux qui prendront leur retraite plus tard. Je crois que c'est important. Simplement, nous sommes tous d'accord pour que les carrières, ce qui est à la fois la pénibilité et les carrières longues, soient vraiment prises en compte. là aussi, ceux qui ont des... Alors c'est vrai que les transports en commun, ils mettent une heure pour aller travailler et autres. Nous, on met une heure en voiture avec les embouteillages maintenant à l'entrée du Mans qui sont souvent récurrents. Je crois que puis la pénibilité de certains travaux avec soit le bruit, soit les vibrations et autres, fait que bon, il faut vraiment réfléchir à comment... on dépénalise, si je puis dire, le mauvais travail en améliorant la retraite. Moi, je suis toujours frappé dans nos territoires ruraux, combien les personnes aspirent à la retraite, hein. Combien ils aspirent à pouvoir profiter pleinement de la vie, parce que, eh bien, on a tous un lopin de terre, un jardin, on a des tas d'amis dans le coin, on s'est bricolé, parce que ça a été souvent des métiers manuels et tout ça. Donc, il y a au fond, il y a le travail d'une vie professionnelle pour permettre aussi après d'aspirer à ce qu'on aime faire, cette vie de famille, ce lien social. Les associations en milieu rural, elles sont assez extraordinaires. Enfin, il se passe tous les week-ends quelque chose dans notre vallée de Loire. Tous les week-ends, il se passe quelque chose. Et donc, il y a une participation naturelle des gens à la vie qui fait que, je pense que heureusement, l'espérance vie est plus longue, mais 64 ans me semble la retraite maximale, si je puis dire, hein, la vie d'activité maximale pour prendre sa retraite après.
Mais si je décrypte bien, ce que vous dites, c'est que vous avez une approche plus nuancée. On ne va pas y aller d'autorité, mais il faut discuter, il faut trouver des leviers, puisque le point de blocage aujourd'hui, vous le savez, c'est cet allongement-là.
Oui, c'est le nombre d'années de cotisation, le nombre de trimestres, pardon, de cotisation. Et puis pour ceux ici, parce que chez nous, dans nos régions rurales, beaucoup de gens ont commencé avant 18 ans, hein, ou avant 20 ans. Hein, donc c'est cette période-là sur laquelle il faut tenir compte, et ils ont souvent commencé avec des très petits jobs, hein, donc ça n'est qu'après. Donc la prise en compte, alors bon, c'est les 25 meilleures années, je crois, pour l'agriculture notamment, on prend en compte les 25 meilleures années agricoles pour permettre la retraite, ce qui va augmenter sensiblement les retraites. Je crois que pour tout le monde, c'est pas fini là, si je puis dire, c'est pas fini le problème de la retraite, parce que je pense qu'à toujours il y aura des volontés, des recherches pour améliorer, pour que les personnes puissent prendre leur retraite. Il y a aussi tout le problème de la retraite par capitalisation où les entreprises ou l'État, les fonctionnaires et autres, mettent de l'argent de côté aussi dans leurs bénéfices et autres pour permettre à leurs collaborateurs de prendre avoir des retraites complémentaires, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc il y a tout ça qui est en train de germer et puis sur lequel je pense il y a cette loi et il y en aura d'autres peut-être pour améliorer la condition. Non pas le temps de travail, mais la condition et l'amélioration des retraites, ce que j'espère.
Alors, pour vous rendre justice, il faut que je précise que vous avez été co-signataire de la proposition de loi visant à porter le calcul de la retraite des agriculteurs non salariés sur leurs seules 25 meilleures années de revenus. C'est bien ça.
Oui, parce que beaucoup d'agriculteurs étaient aides familiaux au départ. Ils travaillaient avec la famille, etc. Et donc, au fond, ils ont passé des années jusqu'à ce qu'ils s'installent eux-mêmes. Et vous savez qu'un jeune agriculteur peut s'installer jusqu'à 35 ans, donc jusqu'à ce qu'ils s'installent eux-mêmes. Donc, pour moi, c'était extrêmement important que on prenne leurs 25 meilleures années pour calcul du taux de leur retraite.
Alors, comment sortir par le haut de cette situation, puisque vous le voyez, pour les semaines à venir, il y a un appel à arrêter, à mettre le pays à l'arrêt, fin de citation, et vous vous dites que, allez, aujourd'hui on se penche sur le problème des retraites et qu'il va falloir s'y pencher dans l'avenir, puisque le problème sera récurrent. Est-ce que une meilleure approche serait identifiable, et quelle serait cette meilleure approche, Louis-Jean de Nicolaï?
Je crois que d'abord, le gouvernement n'a pas pris, a décidé de faire la réforme des retraites. Je sais pas pourquoi le président de la République tout d'un coup a dit 2023, je fais la réforme des retraites dès le mois de janvier, etc. Alors qu'il aurait pu le faire avant, il l'a reporté. Il a annoncé en même temps que 62 ans, ça suffisait largement. Il annonce qu'il y a 10 milliards ou 12 milliards d'économies à faire. 4 jours après, il annonce qu'on va mettre 413 milliards d'euros pour la défense nationale sur 7 ans. Donc ça fait 70 milliards d'euros par an. et que par conséquent, les gens disent, mais attendez, il va trouver 70 milliards d'euros, on ne sait pas comment d'ailleurs, et puis d'un autre côté, pour 10 milliards, on nous augmente le temps de retraite. Donc tout ceci est lancé dans un contexte, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, on revient dessus, etc., qui fait que, alors en plus, est-ce qu'on touche aux régimes spéciaux, est-ce qu'on touche pas aux régimes spéciaux, donc on a touché aux régimes spéciaux, donc en plus, les organisations à la fois syndicales et en même temps certains partis politiques ont dit que la réforme de retraite, ça serait le casus belli. Donc ça ne se prend pas comme ça. Donc je crois qu'il y a une erreur de casting et d'organisation qui fait que ce qui était annoncé est arrivé. Ce qui était annoncé est arrivé. Je pense que les discussions auraient dû être peut-être probablement plus longues, et puis peut-être pas dans ce contexte d'hausse de la vie, du coût de la vie, de difficultés que les uns et les autres, et qu'on dit, écoutez, voilà, en plus, on va vous demander de travailler plus longtemps. Et puis, le monde change aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la directrice là, d'une agence d'intérim me disait que c'est fou le nombre de personnes qui disent « moi je veux travailler je veux prendre un boulot qui me dure 10 mois parce que je voudrais avoir 2 mois de vacances pour profiter », etc. On est, alors c'est à tort ou à raison, est-ce que c'est mais voilà, je pense que la vie doit être prise d'une réflexion un peu différente aujourd'hui, et je regrette, enfin bon, je donne pas raison non plus à certains partis politiques qui mettent une pagaille noire en hurlant, en empêchant le débat public intelligent, en empêchant la discussion, comme l'a proposé la première ministre avec certains partis, ce qui fait que ça éteint les autres partis, parce que on ne regarde que ce qui se passe entre le Front National et la NUPES, pour ne pas les citer. Et donc tout ceci me semble raté, en fait. Raté, et cette loi passera, mais ça laissera des soupçons de regrets, en fait. Alors que la loi Fillon, elle est passée, elle a été acceptée. Donc il y a une façon de voir les choses un peu différemment.
Et entre-temps, il y a eu la réforme Touraine aussi. Donc,
en plus, entre-temps, c'est vrai, il y a eu la réforme Touraine après aussi, qui est passée. Donc,
Et qu'est-ce que ça dit, puisque vous voyez la mobilisation en milieu rural, dans les villes moyennes, où... quand on regarde bien, les observateurs font attention à ce qui se passe, où il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, et c'est une mobilisation qui est transpartisane. Il y a aussi vos collègues voilà, qui doivent faire le même constat.
D'abord, chapeau aux organisateurs. Elle se passe remarquablement bien, ces manifestations et cette mobilisation. Ils ont réussi à éviter les casseurs, qu'on voyait dans d'autres manifestations avant, et là il y a vraiment une prise en main, et on sent que ceux qui se mobilisent se mobilisent avec respect. Il n'y a pas de bagarre, peut-être un tout petit endroit où je parle, mais dans l'essentiel, c'est vraiment une mobilisation de respect. Ce qui prouve que c'est un sujet extrêmement sérieux. Et que on n'est plus en 1950, on n'est plus en 1960, on n'est plus en 1980. On est dans un monde qui change complètement, et probablement la façon de faire doit changer aussi.
Vous faites bien de répéter ça, le monde change, parce que j'ai fait des interviews au cœur des manifestations avec des gens qui me disaient « c'est la première fois de toute ma vie que je manifeste ». Des personnes d'un certain âge, un monsieur qui avait plus de 50 ans, une dame de la soixantaine, donc qui me disait « ce n'est pas forcément pour moi, je suis déjà à la retraite, mais quand je pense à mes petits-enfants, je me dis, c'est pas de cette façon-là que je voudrais qu'on règle les problèmes auxquels ils seront confrontés. » Elle me dit, voilà, qu'elle ne fait pas l'autruche, elle sait bien qu'il va y avoir un problème de financement, mais que ce n'est pas, selon elle, la meilleure façon de procéder. Donc il y a des gens comme ça aussi qui pensent la même chose que vous.
Oui, moi je suis persuadé, que je vous dis, pour les d'ailleurs des jeunes, bon, qui ont manifesté, parce que ils voient la vie de façon tout à fait différente, et que le nombre de cotisations, la problématique, alors on avait l'autre jour l'ambassadeur du Danemark qui est venu faire un exposé, parce que eux c'est fiscal, la retraite, elle est fiscalisée, donc c'est un choix, et du coup il y a plus de cotisations sociales, etc., mais il y a ces prises sur la fiscalité, donc tous, je pense que la vision des choses, de dire voilà, on met des années de plus, ça peut se comprendre parce qu'on vit plus vieux, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça, vous faites bien de le dire, puisque par rapport à la longévité, il y a des gens qui disent « oui, on vit certes plus vieux, mais bon, pas en bonne santé ». Et ce que vous dites aussi par rapport à l'investissement, dans le milieu associatif, nous on est confrontés à ça. Il y a certaines personnes, c'est à la retraite aussi, qui disent « ok, je vais donner mon temps à des causes qui me tiennent à cœur ». Et on sait tous que les associations jouent un rôle très important et qui... sont complémentaires et un rôle qui est complémentaire de l'action publique en fait aussi. Donc c'est un mix, vous évoquiez le mix énergétique, il y a un mix retraite aussi peut-être à inventer. Ça peut être ça.
L'avenir le dira.
Exactement. Alors Louis-Jean Nicolaï, on a dit qu'on allait se projeter, on s'est beaucoup projeté déjà, mais je ne sais pas si vous avez des points qui vous paraissent essentiels.
Moi, j'ai deux points sur... enfin, trois points même sur... je parlais de la vallée du Loir, si vous permettez.
Bien sûr.
Juste un peu parler parce que c'est mon territoire.
Exactement.
C'est mon territoire, ce Sud-Sarthe, que j'aime tant.
Et c'est votre émission, en plus.
Oui, c'est gentil. Je voudrais juste, sur les sujets qui fâchent, sur la vallée du Loir. Je crois que la vallée du Loir a un potentiel à la fois géographique, de situation géographique avec les deux autoroutes qui arrivent du côté de Sablé mais aussi du côté de Montabon, avec une caractéristique de douceur de vivre, de gentillesse des habitants et de qualité viticole, de qualité aussi de produits alimentaires, de quelques qualités touristiques aussi, et je crois qu'il faut la préserver. Je le dis parce que j'essaie de mener deux combats. Un combat qui dit attention à l'implantation de la transition énergétique et notamment des éoliennes. Attention de ne pas standardiser la France et de telle façon que tous les 20 km ou tous les 30 km, mais vous aurez, comme on l'a eu avec les lignes électriques, qui n'est quand même pas une réussite, alors qu'en Angleterre, ils ont tout enfoui, et nous, on n'arrive pas à enfouir, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin, on n'arrive pas à enfouir. Attention de ne pas standardiser un pays où, au fait, la vallée du Loir sera exactement comme toutes les autres vallées, n'aurait pas de caractéristiques. Je ne suis pas opposé... à l'installation d'éoliennes, mais je demande vraiment à l'État de réfléchir avec les élus locaux sur l'intelligence de l'emplacement et non pas de dire, voilà, il faut faire tant de mégawattheures, autant de etc., etc., et que donc il faut en mettre 50, 100, 150. Je crois qu'il y a des volontés de la part des élus de faire en sorte eh bien que la vallée du Loir soit un lieu d'accueil, à la fois touristique, à la fois humain, à la fois de bonheur de vivre, etc. Donc c'est un premier point sur lequel je demande à l'État et je travaille dans ce sens pour être très vigilant pour protéger la caractéristique de la vallée du Loir. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'on puisse avoir des communes touristiques, j'ai demandé à l'ETBL de mettre en place une catégorie pour permettre aux communes qui veulent être communes touristiques de pouvoir être communes touristiques. Ça prend un peu de temps, mais j'espère qu'on y arrivera. Le deuxième point, c'est le Loir et les moulins et les barrages. Je l'ai dit l'autre jour, à Nantes, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais cet été, vous pouviez traverser la Loire à pied, quasiment. Le Loir, impossible, parce que les barrages étaient là aussi pour faire des retenues d'eau, et ça a permis à des maraîchers d'avoir de l'eau, ça a permis à des agriculteurs d'avoir de l'eau, etc. Donc, on me dit, oui, mais il faut absolument... L'eau des rivières fait partie de l'écosystème maritime, et que si l'eau des rivières n'arrive pas en grand nombre dans la mer, et eh bien le bien trop salé, etc. Et donc pour les poissons, les huîtres, etc. C'est mauvais. Donc je prends en compte tout cela, hein, tout aussi. C'est pour ça qu'il faut peut-être réfléchir à la hauteur des barrages, comment le faire. Mais je pense que les moulins, les barrages font aussi partie du patrimoine de notre région et font aussi partie de la qualité de vie sur lequel qui pourrait faire accroître le nombre d'habitants qui pourraient venir dans notre région, notamment les week-ends pour les vacances, etc. Donc c'est des combats que je mène sur le long terme, en fait. Moi, je vais bientôt terminé ma vie publique, hein, parce qu'à 73 ans, il faut quand même tout se dire qu'on n'a pas encore 6 mandats devant soi. Hein,
c'est encore jeune.
Vous êtes gentil. Mais voilà, c'est des combats extrêmement importants, et c'est pour ça que les schémas, les SCOT et autres qu'ont mis en place les comités de communes sont extrêmement importants. Le PETR a travaillé, sous l'initiative de Béatrice Latouche, a travaillé aussi pour mettre un plan climat-énergie, et je souhaite que les services de l'État respectent ce plan climat-énergie, que les présidents de comités de communes puissent le faire adopter par leurs conseillers. Je pense que c'est important. Là aussi, nos régions sont à un tournant. Il faut qu'on développe la mobilité, il faut qu'on développe les pistes cyclables, il faut qu'on développe le loisir, hein, puisque les gens, alors, il y aura 2 ans peut-être plus de travail, mais comme l'espérance de vie, il y a quand même 20 ans ou 25 ans après sur lequel on peut venir se détendre, venir les week-ends, et si le numérique aussi a développé tout ça, permet de travailler à distance, et on a vraiment une carte à jouer. Simplement, avoir une carte à jouer, il faut qu'on donne une qualité de vie. Cette qualité de vie, ça passe par à la fois la protection de l'environnement, par des infrastructures intelligentes, par une amélioration de nos villes, par essayer de maintenir au maximum le commerce et tout faire pour le commerce. Donc bref, c'est un ensemble de dispositions qu'il faut qu'au fond, la respiration sera sur nos territoires.
Voilà, vous avez épuisé vos 3 jokers, et on vous remercie d'être venu nous parler pendant près d'une heure, hein, de ce que vous faites au Sénat, où on vous souhaite bon courage, parce que pour votre agenda avec la réforme des retraites, il va y falloir être convaincant.
Le 2 mars, ça commence.
Donc vous avez le temps d'affûter votre réflexion qui sera nourrie, je pense, par tout ce qui se passe sur nos territoires avec ce que vous évoquiez, hein, cette mobilisation qui est, allez, on va dire, très forte sur nos territoires ruraux, où les gens se posent des questions, non pas seulement sur cette réforme des retraites, vous l'avez dit de façon plus large aussi, sur ce que l'avenir va être selon eux, sur cette envie aussi de découvrir autre chose, puisque le Covid, vous l'avez pointé, a été aussi un révélateur, ça a été un tournant, et on en reparlera sur Radio Prévert avec Louis-Jean de Nicolaï, qu'on réinvitera. Ce n'est que la première émission de l'année 2023, vous le savez. Soit il vient en studio, ou alors c'est nous qui allons l'accompagner sur le terrain, puisque avec notre studio mobile, il y a des choses à faire, et on en parlait hors antenne, il va y avoir des surprises, et soit on l'appellera lorsqu'il sera au Sénat, puisque de temps en temps, il s'échappe quelques minutes pour nous répondre par téléphone, ça, on peut également le faire. Merci infiniment, Louis-Jean de Nicolaï.
Merci à vous.
Sénateur de la Sarthe, membre de la commission en charge de l'aménagement du territoire, et également du développement durable, invité exceptionnel de Radio Prévert en ces débuts d'année.